BFM Stratégie avec Sandra Gandoin sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie en partenariat avec le BCG, le Boston Consulting Group. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion d'actifs, c'est-à-dire les activités de gestion de notre épargne, celle que nous confions à nos banques et aux assureurs et qui est investie dans des portefeuilles d'actions, d'obligations, d'immobilier, de private equity. En France, nous avons de très grands acteurs du secteur parmi les champions européens. On pense à Amundi, Natixis, CCM, AXA IM, BNPP AM pour les plus grands en taille. Et nous allons nous intéresser à l'état du secteur en 2023. L'année 2023 a paradoxalement été une année de reprise du secteur avec une hausse des encours confiés en volume, mais aussi une baisse des revenus et de la profitabilité du secteur. Et pour en parler dans le détail avec nous aujourd'hui, je reçois Philippe Soussan, directeur associé senior au BCG, spécialiste de la banque et de la gestion d'actifs. Merci d'être dans cette émission. Philippe, première question, comment se porte ce secteur de la gestion d'actifs ?
Bonjour Sandra. La gestion d'actifs, c'est un marché qui est extrêmement grand et en même temps, c'est un marché qui est très résilient. C'est une industrie qui aujourd'hui compte plus de 120 000 milliards de dollars d'encours confiés aux sociétés de gestion. Et par ailleurs, les revenus sont eux supportés par en fait les encours qui sont confiés. Donc vous voyez, c'est un métier de stock qui lui est très résilient. L'année 2023, ça a été une année assez paradoxale parce que les encours confiés aux sociétés de gestion ont bondi de plus 12% au niveau mondial. Et ça s'est vu dans toutes les géographies, hein, plus 16 aux États-Unis, plus 8 en Europe et en Asie, après une année 2022 qui était une année assez noire avec un recul de 9%. En revanche, cette croissance des volumes, elle masque aussi une certaine vulnérabilité sur les profits des acteurs parce que les revenus sont restés stables dans cette même période, les coûts ont augmenté de manière assez significative et au final, les profits ont reculé de 8% sur l'année 2023.
Comment, justement, on explique ce décalage dont vous venez de parler ?
Alors, il y a trois grands facteurs explicatifs. Il y a en gros le mix produit qui s'est orienté vers des produits qui sont moins bien rémunérés pour les grandes sociétés de gestion. Il y a une pression sur les prix qui continue d'être constante avec une érosion des prix chaque année depuis 15 ans. Et par ailleurs, il y a une évolution des coûts structurellement à la hausse sur laquelle on reviendra à la fois pour des aspects réglementaires et aussi sur les sujets d'innovation. Si je prends le mix produit, les deux typologies de produits qui ont eu vraiment le vent en poupe en 2023, c'est la gestion passive et la gestion monétaire. La gestion passive, elle a concentré 70% en gros de la collecte d'argent frais qui a été confiée aux sociétés de gestion, donc la collecte nette. Ce chiffre-là, il est en très forte augmentation parce que dans les années 2000, on était plutôt autour de 15-20%. Et cette gestion passive, vous savez, c'est une gestion qui est plutôt en réplication de grands indices boursiers pour bénéficier de leur performance, contrairement à la gestion active qui, elle, va aller sélectionner des titres individuels pour regarder s'ils sont meilleurs en performance que leur pair. Et du coup, c'est une gestion qui a très gros volume, beaucoup plus industrielle, mais qui aussi a plus faible marge pour les acteurs de la gestion. Et par ailleurs, les autres produits qui ont pas mal bénéficié de la hausse de cette année, c'était les produits monétaires, qui ont vu leur rémunération pas mal augmenter dans un contexte dans lequel ils ont toujours un risque relativement limité. Et donc, ces deux typologies de produits sont deux typologies à rémunération plus faible pour les grandes sociétés de gestion, mais en même temps qui ont concentré le gros de l'argent collecté. Après, quand on regarde un peu ce qui se passe du côté de la rémunération de ces sociétés, en 2023, en moyenne, la rémunération des sociétés de gestion, c'est 22 points de base, donc 0,22% des actifs qui leur sont confiés. Il y a une érosion constante année après année. En 2010, on était à 26, en 2015, on était à 25, et chaque année, ça redescend, à la fois sous la pression des grands investisseurs institutionnels, les grands assureurs, les fonds de pension, qui se sophistiquent dans leur manière d'acheter la gestion, mais aussi sur les investisseurs individuels, parce que les autorités réglementaires mettent aussi un point d'honneur à faire de la protection des investisseurs individuels, et il y a eu beaucoup de débats cette année sur, par exemple, la rémunération des unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Et maintenant, si je vais sur le volet des coûts, les coûts des sociétés de gestion, ils ont augmenté de 80% entre 2010 et 2023, c'est colossal. Ça a été porté évidemment par une évolution de la masse salariale, parce que la gestion d'actifs, c'est une industrie de talent. C'est les hommes et les femmes qui constituent vraiment les actifs de ces sociétés-là. Il y a eu aussi beaucoup de l'accroissement du coût réglementaire et en particulier tout le développement de l'ESG et de l'investissement socialement responsable au sens large. C'est quelque chose qui a nécessité énormément d'investissements de la part de ces sociétés en data, en analyse, en recherche et en gestion. Mais c'est aussi au bénéfice aujourd'hui d'une offre qui est extrêmement bien maîtrisée d'investissement impact et d'investissement responsable et qui est très riche. Aujourd'hui, l'ESG et l'investissement responsable, c'est le cœur du réacteur de toutes les sociétés de gestion, alors qu'il y a 15 ans, c'était vraiment l'apanage de quelques-unes. Et enfin, il y a le volet innovation qui est très important parce que dans les conditions de marché qu'on a aujourd'hui, avec beaucoup de volatilité, avec les facteurs géopolitiques, évolution des taux qui ont un impact extrêmement significatif, on se rend bien compte que ces sociétés-là, elles doivent avoir des solutions d'investissement qui sont vraiment adaptées à toutes les situations. Et pour convaincre les investisseurs qu'elles peuvent leur vendre, elles doivent avoir anticipé ça de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, parce qu'elles doivent avoir construit de la performance sur le long terme. Et c'est vrai que du coup, la recherche et développement est très importante. Et quand on regarde aujourd'hui, il n'y a que 35% des produits qui existaient il y a 10 ans qui sont encore en vente sur les étagères des grands gestionnaires d'actifs. En 2010, on était plutôt à 60%. Donc la R&D, elle est très importante, mais elle a un coût. Et il y a aussi plus de casse dans ce qu'on arrive à créer en anticipation.
Dans ce contexte, Philippe Soussan, quels sont les leviers de développement pour le secteur ?
Alors, au BCG, nous, on voit 4 grands leviers de développement pour les sociétés de gestion d'actifs. C'est un peu ce qu'on a qualifié des 4 P. Il y a le sujet productivité, il y a le sujet de la personnalisation, il y a les actifs réels et privés, les private markets, et puis il y a le passif. Alors la productivité, c'est un impératif pour toutes les sociétés, elles doivent travailler à réduire leur base de coûts. Sur le volet personnalisation, c'est valable dans tout le monde bancaire, mais dans l'épargne en particulier, vous voyez bien qu'il y a toute une tendance à aller vraiment customiser les solutions d'investissement aux préférences et aux caractéristiques du client. Alors c'était le cas historiquement sur les préférences en termes de risque, de connaissances financières, mais c'est aussi le cas aujourd'hui même en termes de préférences sur les sujets d'environnement par exemple. Et avant, ces produits-là étaient plutôt des produits très haut de gamme réservés à la banque privée. Il y a beaucoup de produits maintenant qui viennent démocratiser cette personnalisation de la gestion de l'épargne. Le private market, donc les actifs réels et privés, là on parle de l'investissement dans les sociétés plutôt non cotées, et c'est à la fois l'investissement qui se fait dans le private equity, dans les infrastructures, dans la dette privée ou dans l'immobilier. Cette partie du secteur, elle concentre 20% des volumes de la gestion d'actifs, mais 55% des revenus. Donc vous voyez que c'est une partie qui est extrêmement bien margée, qui a eu le vent en poupe ces 10 dernières années, parce que c'est la partie du secteur qui continuait d'offrir de très bons rendements pour les grands investisseurs, en particulier assurantiels, parce que elle correspondait aussi à quelque part à l'horizon d'investissement long terme qu'ont ces grands investisseurs. Et enfin, le quatrième P, on l'a vu tout à l'heure, c'est la gestion passive qui continue d'avoir de très beaux jours devant elle, parce que tarification très attractive et en même temps une offre extrêmement riche. Alors, les sociétés de gestion, elles travaillent depuis pas mal d'années maintenant sur ces 4 P pour à la fois diversifier leurs sources de revenus et continuer d'être de plus en plus compétitives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont un nouvel élément à faire rentrer dans l'équation, et elles se rendent compte que l'intelligence artificielle et l'IA générative peuvent avoir un impact très significatif et peuvent leur permettre de travailler sur ces 4 volets. Et c'est pas que l'IA générative, en réalité, c'est vraiment la combinaison entre l'intelligence artificielle prédictive, qui elle est basée sur des modèles mathématiques plutôt statistiques, et l'intelligence artificielle générative, qui elle va travailler sur la création de contenu, la synthèse et plutôt les activités cognitives. C'est vraiment la combinaison des deux qui donne des résultats assez bluffants, et tous les acteurs sont en train de s'y mettre de manière très significative.
Alors vous allez nous expliquer ça, en quoi l'IA générative pourrait-elle tirer la croissance de ce secteur, et au-delà d'une solution magique, est-ce qu'on a déjà quelques exemples concrets à donner ?
Oui. Alors, on a interrogé beaucoup d'acteurs du secteur là ces derniers mois, et il y a beaucoup d'applications. Quand on prend le thème de la vente et du commerce, aujourd'hui, dans la gestion d'actifs, les commerciaux passent beaucoup de temps à créer des présentations sur leurs solutions d'investissement, qui sont à la fois des argumentaires commerciaux, de l'analyse de beaucoup de données à la fois réglementaires et internes. Et en fait, on peut être appuyé sur la construction de ces présentations par de l'IA générative. C'est le cas aussi pour les grands appels d'offres auxquels les sociétés de gestion répondent pour leur clientèle institutionnelle, ou même pour les reportings très complexes qu'ils mettent à disposition de leurs clients assurantiels. Il y a beaucoup d'applications dans le domaine informatique aussi. La génération de code appuyée par l'IA générative, où on fait générer le code automatiquement, puis ensuite vérifier par un certain nombre de développeurs seniors. Il y a aussi des applications dans le service client. Le service client, hein, c'est les clients nous posent des demandes auxquelles on doit répondre de manière pertinente, efficace et rapide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cas dans lesquels on voit des solutions dans lesquelles les agents se font appuyer par de l'IA générative, voire on met dans la main des clients directement des solutions pour qu'ils aient les réponses en relative autonomie. Mmh. Vous voyez qu'il y a des applications qui sont quand même assez larges sur tous les pans de l'activité de gestion d'actifs.
On voit que les gains pourraient être importants, mais est-ce qu'on a réussi à dépasser le stade de la théorie? Où en sont vraiment les gestionnaires d'actifs dans cette mise en place de l'IA générative?
Oui, alors on a interrogé la majorité d'entre eux là, dans une étude qu'on a publiée cette semaine. Ce qu'ils nous disent, c'est que les trois quarts d'entre eux considèrent que l'IA et l'IA générative vont avoir un impact très significatif, voire transformant sur leur métier. Ils sont les deux tiers à avoir déjà construit une vraie stratégie sur la base de ces éléments-là. Et 9 sur 10 ont déjà testé des cas d'usage dans les domaines que je vous citais tout à l'heure, la vente et le commerce, le reporting et puis la génération de code. Après, on peut encore accélérer parce qu'aujourd'hui, il y a seulement 15% des sociétés de gestion qui ont vraiment défini une stratégie à l'échelle de l'entreprise et pas que des cas d'usage relativement ponctuels. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une petite tendance à aujourd'hui construire une succession de petits cas d'usage, alors que l'enjeu, c'est d'identifier 2-3 très grands sujets, assez transformants, sur lesquels on peut créer de la valeur.
On voit que tout cela est progressif, cette mise en place est progressive. Comment on pourrait faire pour accélérer le processus, Philippe Soussan?
Alors, au BCG, on recommande à nos clients dans la gestion d'actifs de se poser vraiment 5 grandes questions. Une autour de l'ambition, quelle est notre ambition et jusqu'où on veut aller sur l'IA générative? Quelles activités est-ce qu'on veut pouvoir transformer? Comment est-ce qu'on est capable de mettre sur la table les bonnes ressources financières et humaines pour pouvoir accompagner cette transformation? Un quatrième volet autour de tout ce qui est socle technologique pour appuyer ces nouvelles solutions. Et puis évidemment la gestion des risques, que ce soit la gestion des fuites de données, des éventuels biais de voire des hallucinations de ces différents modèles.
Le meilleur est à venir, on a envie de dire, hein, dans ce domaine de la gestion d'actifs qui se repense en permanence et qui va vite. Merci beaucoup, Philippe Soussan, directeur associé senior au BCG, spécialiste de la banque et de la gestion d'actifs. On va se retrouver très vite, évidemment, sur BFM Business pour un nouveau numéro de BFM Stratégie. À très bientôt.
BFM Stratégie sur BFM Business.